Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère. C'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. Bonjour à vous et bienvenue à cet épisode du mois d'avril 2021. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial pour nous parce que c'est l'anniversaire de notre podcast. Ça fait un an officiellement aujourd'hui qu'on diffuse cette balado, donc on est au 13e épisode aujourd'hui. Et je me sens toujours aussi comblée d'animer ce balado-là. Puis je pense que j'ai un remerciement à faire à vous, en fait, parce qu'on s'est entendu que ça ferait pas beaucoup de sens de le faire si vous n'étiez pas là pour l'écouter. Donc, merci de me prêter vos oreilles, merci d'être présent, puis de l'intérêt que vous portez pour la diffusion qu'on fait. Une autre chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est de vous rappeler qu'il va y avoir une baisse de fréquence, en fait, des épisodes à l'avenir. Donc, ce qu'on envisage de faire, c'est un épisode par trimestre. Donc, le 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 1er janvier. Donc, ça va être 4 fois par année, à l'exception du dernier segment historique de Ghislain Jutras qui va être diffusé dans quelques semaines. Donc, ma collaboration avec Ghislain va tirer à sa fin. Puis, d'ailleurs, j'en profite pour le remercier d'avoir été présent pendant cette première année-là puis de nous avoir fait bénéficier de ces épisodes. Alors, pour souligner l'ouverture de cette deuxième année de diffusion, on a Vincent Lafleur-Michaud, qui est co-gestionnaire du Jardin des Funambules avec moi-même, Vincent Marcoux et Mélisande. Donc, dans le fond, l'épisode se passe avec lui, puis on fait la rétrospective de notre saison hivernale. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est notre première saison de production hivernale sérieuse. Puis, dans le fond, on vous donne un échantillon, ni plus ni moins, de nos conversations au day-to-day. Donc, c'est vraiment un épisode qui, comme, représente l'intégralité de nos constats de la fin de saison hivernale. Puis, juste en passant, si jamais vous êtes absolument passionné par ce sujet-là, Vincent Lafleur a offert une entrevue au podcast Mâche Patate, qui est en fait le balado des urbainculteurs. Donc, cet épisode-là a été diffusé le 17 février dernier. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vous propose d'aller l'écouter. Donc, pour revenir au contenu de notre épisode, en fait, je ne veux pas vous voler un punch, là, mais on parle d'argent. Donc, on parle de cash. On dit qu'est-ce qu'on a fait cet hiver? Essentiellement, on a fait 25 000 $ des serres. Donc, des cultures vraiment qui ont sorti de nos quatre serres. Parce qu'on en a cinq, mais il y en a une de laquelle il n'y a à peu près rien qui est sorti. Parce que c'est à ce point-ci, en fait, maintenant jusqu'au mois de juin, qu'on va sortir les cultures qui ont passé l'hiver là. Donc, c'est ça, je souhaite seulement faire une clarification, en fait, parce que quand on a tourné l'épisode, ça fait environ 2 à 3 semaines, on n'avait pas les chiffres finaux. Donc, on s'est un peu avancé sur les chiffres avant d'avoir la conclusion, mais à ce jour, on peut vous dire que ben, notre premier hiver, dans le fond, on a fait environ 35, un peu plus, en fait, de 35 000 $ de façon générale, donc des serres, mais aussi des légumes de conservation qu'on avait gardés. Dans ce 35 000 $-là, il y a un morceau, en fait, qui est un peu plus gros que 25 000 $ qui vient directement des serres. Donc, est-ce que c'est un chiffre d'affaires hivernal qui est suffisant? Je dirais tout simplement que non. Mais c'est notre premier hiver, puis on est absolument confiant d'augmenter ça nettement. On est confiant qu'on peut augmenter ce chiffre d'affaires-là nettement. Donc, j'en dirai pas plus parce que, en fait, vous allez m'entendre parler ainsi que Vincent pendant un long moment à propos de ce sujet-là. Donc, je vais tout simplement vous laisser nous écouter. Mais avant de commencer, je souhaite remercier Dubois Agrénovation, qui est le partenaire principal du balado pour une deuxième année. Donc, je suis vraiment heureuse et fière de cela. Je vais vous en parler plus amplement, par contre, en cœur d'épisode. Je suis vraiment fière aussi de vous annoncer que l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victo est nouvellement partenaire de notre balado. Nous, on considère que le passage au Cégep de Victo, ça a été une étape décisive dans notre préparation à être maraîcher. On a acquis notamment des compétences de gestion qui nous semblent absolument indispensables à ce jour et par-dessus tout, on s'est rencontrés. Tu sais, hein? Bref, l'INAB, c'est le lieu d'apprentissage de prédilection pour acquérir des compétences et un solide réseau dans le bio. comme partenaire, en fait, cette année, encore une fois, il y a Climax Conseil. Je suis vraiment heureuse, encore une fois, qu'ils nous supportent une deuxième année. C'est eux qui nous permettent d'avoir une gestion de serre optimale. Comme vous le savez sûrement, la production de tomates en serre, c'est d'une complexité qui peut être assez étourdissante, mais ça vaut la peine de s'y pencher, de maîtriser le plus de paramètres possible pour tirer le maximum. Puis les conseillers de Climax, ils nous aident à faire ça. Donc, merci à eux d'être là pour la production. Merci à eux d'être là pour le soutien au balado également. Pour terminer, le dernier mais non le moindre, il y a les équipements Tivierge qui offrent un épandeur à compost sur BCS. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cet épandeur-là peut nous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'efforts physiques aussi, surtout si vous faites votre épandage à la brouette. Sérieusement, si vous avez un BCS puis vous faites votre épandage à la brouette, je ne peux pas vous conseiller plus chaudement d'avoir l'épandeur. En fait, ça a changé les règles du jeu pour nous au printemps. Puis d'après nos tests, ça prend environ 2 fois moins de temps et c'est tellement moins éreintant. On considère que c'est un super bon investissement. Puis ça, c'est sans compter que cet investissement-là, ben devinez quoi, il peut être supporté par la subvention Primevert. Donc essentiellement, il vous coûte pas grand-chose, mais ça rapporte beaucoup. Donc, bon, et sans plus attendre, je vous laisse écouter ça. J'espère que ça va vous plaire, puis j'espère que vous avez un intérêt aussi grand pour le sujet que nous, parce que nous, on commence à être un peu des mordus là, d'agriculture hivernale. C'est un peu notre sujet favori ces temps-ci. Donc, je vous souhaite vraiment une belle écoute. Salut Vincent.
Salut Corinne.
Comment tu vas aujourd'hui?
Très bien, merci. Toi?
Ouais. Ben, moi aussi.
Ouais.
T'es pas trop fatigué de ta saison d'agriculture hivernale?
Non, ça va.
Non?
Ça me tout bien passé.
Ouais.
Je dirais même que je suis un peu revigoré.
Oh, revigoré. Ouais. Ben, moi, c'est la même chose. En fait, j'aimerais ça avoir ta perception sur nos semaines de travail. À quoi ça leur semblait? Peux-tu nous faire vivre l'expérience un petit peu?
Ouais, mais ça a été, je dirais, selon notre planification. Fait qu'en quelque sorte, on a travaillé autour d'une journée et demie par semaine, les 4, sur la production hivernale. Ça représentait principalement une journée de récolte, puis après ça, des livraisons, de l'entretien des cultures, gestion de matériel un peu, mais somme toute, ça n'a pas été des grosses semaines de production hivernale. Donc, pour cet aspect-là, moi, je trouve que ça a été assez facile. Ouais, ça a été vraiment le fun de sortir à l'extérieur pour faire des récoltes, puis finalement s'activer. Alors que l'hiver, on a l'habitude d'être beaucoup à l'intérieur, devant l'ordinateur, puis d'être un peu plus comme en hibernation. Ben là, on bougeait, on travaillait notre corps.
Mais à un tout autre rythme.
Ouais.
Moi, c'est ça que je trouvais. Ouais. C'est que l'hiver, c'est presque impossible de tant qu'à moi, en tout cas, de s'imposer un rythme estival, en fait.
Oui, oui.
Que oui, on faisait une journée complète de travail, mais essentiellement, on jasait, on prenait quand même notre temps. Puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça.
Oui, ouais, moi aussi, vraiment. Puis je pense que le fait que ce soit comme une continuité de la saison estivale, ben tu sais, on a les mêmes espaces de production, on a le même espace de lavage de légumes, on utilise le même matériel. Fait que tu sais, il n'y avait pas de gros clash finalement entre la saison estivale, puis l'automne, puis l'hiver. Tu sais, on a juste continué à faire ce qu'on faisait, mais on faisait moins de travail de production.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'était vraiment facile aussi. Les défis, c'était la neige,
mm-hmm.
le froid, d'être capable de rentrer dans les serres par moment, de gérer les portes qui s'ouvrent toutes seules quand ils ventent vraiment fort. Et somme toute, finalement, c'est des détails parce qu'une fois qu'on est dans la serre, puis c'est le jour, puis qu'il fait soleil,
mm-hmm.
si la serre est chauffée au-dessus de zéro, mais on est vraiment bien. Fait mm-hmm. que c'était vraiment confortable aussi. Là. C'était le fun d'être l'hiver dans une serre assez bien au chaud.
Mm-hmm. Puis je sais pas si c'est ta perception, mais j'ai eu l'impression que le rythme auquel les défis arrivaient était aussi lent. T'sais, c'est comme tout est lent, mais bon, oui, la porte s'ouvre, ben on met un loquet pour la fermer, puis T'sais, il n'y a plus de défis pendant 3 semaines. T'sais, moi, en tout cas, c'est ma perception. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas, comme l'été, il y a 3 défis à chaque semaine, là, ou des majeurs, alors que là, c'est comme, bon, il y a un défi, parfait, on continue notre vie hivernale. Oh, il y a un autre petit défi, puis tu sais,
vraiment
tranquille. T'sais.
C'est vraiment le rythme hivernal, je pense qu'on l'a vraiment bien vécu, puis ça, c'est ça qui fait du bien, dans le fond, je pense, sans sentir le besoin de tout arrêter nos activités pendant l'hiver, je sentais quand même le besoin de réduire le rythme. Puis malgré, tu sais, des serres remplies, puis on a quand même, tu sais, une grosse surface en serre, là, ça paraissait pas comme une charge de travail, puis des surprises momentanées comme « Oh, on est en train de l'échapper sur le désherbage! »
C'est ça, c'est impossible.
Non, le désherbage, je pense qu'on a désherbé 2 fois dans l'année.
Une fois au tout début, une fois au tout début, puis de façon presque symbolique. récemment, tu sais.
On faisait bien attention à la stellaire, qui est comme notre ennemi de l'hiver, c'est d'après ce que je comprends, là. Mais ouais, c'était symbolique, comme tu dis.
Ouais, en fait, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus du rythme, en fait, parce qu'il y a quelque chose autour de ça. Tu sais, on a l'impression que d'avoir des serres pleines, c'est beaucoup de pression.
Ouais.
Que nécessairement, on va beaucoup travailler. Mais c'est juste autre chose, en fait. Ils sont là, puis c'est comme si les légumes, essentiellement, ils nous attendaient, puis on pouvait prendre le temps qu'on veut. Le temps qu'on pouvait vraiment respecter notre rythme pour aller les chercher au bon moment qui nous convient. Je sais pas si c'est aussi ta perception.
Vraiment, vraiment. Je pense que ça a été ça de novembre à février. Où est-ce que, tu sais, c'est quand même le gros de la saison hivernale qui... On dirait que c'est sur pause un peu, les légumes. Fait que c'est pour ça que c'est un peu stressant à l'automne, parce qu'on se dit qu'il faut que les légumes soient prêts en novembre. Oui, tu sais, il y en a qui poussent quand même un peu pendant les mois d'hiver, mais à peu près pas. Ils sont peu nombreux, puis ils poussent pas beaucoup. C'est vraiment à partir de février que là, ça se remet à pousser, la lumière embarque, puis il y a un autre rythme. Mais même ce rythme plus rapide-là, il n'y a rien à voir avec le rythme estival. Tu sais, c'est juste comme... une vitesse supplémentaire par rapport au mois de deep winter, au mois d'hiver, tu sais.
Ouais.
L'été, c'est 5 vitesses de plus, là. Fait que ça...
On est ailleurs.
Ouais.
Je sentais pas que ça m'empêchait, en fait, d'avoir ce repos qui est nécessaire l'hiver.
Ouais.
D'une autre part, j'aimerais ça qu'on parle des revenus qu'on a fait versus les charges principales. Est-ce que tu veux nous parler de ça? C'est quoi le revenu? Là, on est à une semaine d'avoir terminé ce qu'on considère comme notre saison hivernale. Donc, c'est pas le portrait absolument total, mais on a une idée globale. Donc, on a fait un certain revenu en un certain nombre de semaines. Tu veux-tu nous le partager?
Oui. Dans le fond, on s'est donné comme saison hivernale du 1er novembre au 30 mars. Puis là, on arrive à la fin mars. Donc, pour... l'équivalent de à peu près 14 semaines de vente. Il y a plus que 14 semaines dans ces mois-là, mais bon, on a pris des pauses. On a fait autour de 30 000 $ de revenus de légumes de serre, mais il y a aussi une partie de ça qui est des légumes de champ qu'on a récoltés à l'automne puis qui étaient en conservation.
Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on a estimé que ça représentait environ le tiers, ça, les légumes de conservation. Donc, on aurait sorti nos serres en 14 semaines, 20 000 $
Ouais, c'est ça. C'est pas mal exactement ça. Puis ça tombe assez proche des objectifs qu'on s'était donnés.
Pour une première année.
Pour une première année, avec des cultures qui ont pas abouti, des essais qui étaient pas intéressants.
Un calendrier pas tout à fait parfait non plus.
Ouais.
C'est ça, on a eu quand même quelques défis, quelques ratés, disons.
Ouais.
Mais l'objectif financier est quand même atteint.
C'est ça.
C'est ça. Donc, c'est satisfaisant à ce niveau-là.
Vraiment. Mais le gros point d'interrogation qui était présent même à la planification, puis là, c'est le fun, enfin, on met de la lumière là-dessus, c'était les charges de chauffage. Parce qu'on se doutait que ça allait être la grosse dépense, outre notre temps, là, le salaire qu'on veut se payer pour l'hiver. Puis, ça a été quand même élevé, mais... ça reste justifié de faire de l'agriculture hivernale avec les montants qu'on a dépensés en chauffage. Ça a tourné autour de 10 000 $ C'est élevé pour 30 000 de revenus, dont une partie en légumes de conservation. Mais avec les choix qu'on a faits de chauffer les serres juste au-dessus de zéro, on était conscient qu'on allait dépenser un petit peu plus en chauffage que si on était dans un système sans chauffage, vraiment. Fait que ça venait avec peut-être une simplification de notre travail, mais un petit peu plus de dépenses. Mais comment on voit ça, c'est que même avec des charges comme ça, ça reste rentable pour nous de le faire. Puis on sent que le chauffage, ben, ça a été minimal.
Mm-hmm. Il y a une partie de ce 10 000 $-là qui, en fait, sert actuellement à chauffer une serre, notre pépinière, mm-hmm. par contre. C'est Donc, vrai. C'est peut-être un peu moins que 10 000 $ parce que ça fait déjà un bon 3 semaines qu'on chauffe notre pépinière, en fait.
Ouais, on la chauffe à 20, mettons, depuis la mi-février, je pense. Fait que oui, ça fait une énorme différence. Là, on n'est pas dans du chauffage minimal du tout. Puis quand le camion de propane vient, on le sait que c'est principalement pour cette serre-là, finalement. Parce que les autres serres, chauffées à 1 ou 2 ou 3 degrés, ça chauffe la nuit, mais le jour, dès qu'il y a un petit peu de lumière, s'il fait pas moins 25... ça chauffe pas.
Mm-hmm.
En fait, c'est ce qu'on a vécu dans le contexte des récoltes, où on allait récolter le jour, puis dès qu'il y a un peu de lumière, ben les fournaises partent pas, tout simplement mm-hmm. pas. Puis là, surtout depuis le mois de février, où il y a encore plus de soleil, le défi, c'est presque de contrôler la chaleur, puis d'essayer que ça monte pas à 30 degrés Celsius mm-hmm. dans les serres le jour.
Oui, à rendu à ce point-ci, il faudrait pouvoir ouvrir là, quasiment, mais il y a encore de la neige.
C'est ça.
Oui. Donc, on peut dire que les frais de chauffage... si on fait le sommaire, c'était un peu moins que 10 000 $.
Oui.
Okay. La deuxième charge principale, c'est nos salaires, parce que en fait, en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de grosses charges.
Mm.
Puis, on considère que nos salaires ont été couverts par notre saison.
Mm-hmm.
Considérant qu'on n'a pas travaillé beaucoup, considérant qu'on travaillait environ 20-25% d'un temps plein. Là.
Mm-hmm.
C'est ça.
Oui. Exact. Puis quand on fait notre production estivale, notre objectif, c'est d'être capable d'en sortir des revenus pour se payer toute l'année. Ça n'avait pas été encore possible, mais tu sais, là, l'année dernière, c'est ce qu'on sentait qu'on était en mesure de faire. Donc, notre production hivernale, si on veut, vient s'ajouter à ça. T'sais. Puis le salaire lié à notre temps de production hivernale, ben c'était comme une bonification de notre salaire accumulé de l'été. Fait qu'en ça, tu sais, c'est pour ça que j'aime l'idée que l'agriculture hivernale, c'est un genre de bonus à l'été, parce que les charges de l'hiver sont un peu cachées dans l'été, tu sais, nos semences, tous les amortissements de matériel, il y a juste, en général, moins de charges l'hiver que l'été, tu sais.
Mm-hmm. Ouais. Bon, donc c'est un succès au niveau des chiffres.
Ouais.
Mais on vise encore mieux l'année prochaine. On a fait 20 000, on a sorti 20 000 des serres environ. Mais là, on vient de refaire notre planif hivernal, puis là, on s'enligne pour du sérieux.
Oui, c'est ça. C'était comme un succès ou une réussite, mettons, d'une première année. C'est satisfaisant, mais c'est pas comme retentissant. Puis on sait qu'on peut faire mieux, c'est mm-hmm. ça. Puis on a vu... qu'est-ce qui a moins bien été, fait qu'on était capable de mettre le doigt dessus, puis de, c'est ça, comme tu dis, le mettre tout ça dans une planification, mm-hmm. puis être déjà super optimiste que l'année prochaine, ça va être vraiment hot, là, cette saison, parce qu'il y avait de la place dans nos serres pour des cultures qu'on a le goût d'avoir, qui sont populaires, puis dont on a manqué, mettons.
Mm-hmm. Ah ouais, mais je me sens super confiante, en fait, là, j'ai vraiment hâte à la prochaine saison hivernale. Je me sens vraiment confiante parce qu'on a cerné exactement ce qui n'a pas marché. C'est très clair, là.
Ouais.
Tu sais, c'est ouais. ça. Mais avant de parler des défis qu'on a eus puis des solutions qu'on a, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour sur les bons coups. OK, qu'est-ce qu'on a... Mm-hmm. Ça a été quoi les succès, dans le fond, de notre hiver?
Ouais.
On peut commencer peut-être par un volet duquel tu es responsable sur la ferme, c'est-à-dire la mise en marché.
Ouais. La mise en marché, on supposait que ça allait être un bon coup. De vendre des légumes l'hiver à un mm-hmm. moment où, tu sais, il y a quelques fermes qui font des verdures l'hiver, mais somme toute, il n'y en a pas beaucoup.
Fait que c'est ça.
Les clients à qui on vend, finalement, ben ils se retrouvent souvent à avoir des trous d'offres locales pendant l'hiver. Fait que là, on arrivait avec quelque chose de prolongé, on a presque fait le cycle au complet, fait que, tu sais, notre clientèle nous l'a bien rendu, là. Ça a été vraiment, vraiment le fun pour eux, puis pour nous, de garder ce lien-là, puis ils ont acheté beaucoup de verdure, tu sais, mm-hmm. ça a été surprenant quand même de voir la férocité des clients, puis l'intérêt pour les verdures en hiver, là.
C'est ça, il y a une soif, là, de verdure. Oui, on n'a jamais vendu autant de bêta cartes.
Non, c'est vraiment ça. C'est exactement l'exemple le plus... je trouve le plus clair, tu sais, l'été, on a de la difficulté à vendre la bêta carte, mais l'hiver, ben, ça sort tout seul.
C'est ça.
Quand on en a, on la vend.
Mm-hmm. Oui, même moi, je me mets à aimer la bêta carte.
Surprise.
Cool. Bon, un autre des bons coups qu'on peut dire qu'on a eu, c'est de limiter les tests. C'est-à-dire que ça reste un mince pourcentage de nos planches qui a été utilisé par des cultures non concluantes. Notamment, il y a le fenouil. Sinon, ce qu'on considère, nous, comme non concluant, c'est le cresson, la marche. Mmh. C'est qu'on n'a pas envie de renouveler notre expérience. Le fenouil, notamment, c'est parce qu'il n'est pas si tolérant au froid que ça. Il vire quand même... En tout cas, dans notre cas, il est vraiment viré pas beau rapidement.
Ouais, il a gelé dans le fond. Là. Il a eu un coup de gel, puis il s'en est pas remis du tout.
Il n'est pas assez résistant, dans le fond.
Ouais, ouais.
Mais c'est ça, c'est très peu de nos cultures. C'est pas comme si le 1/5 de nos cultures, ça avait été non concluant, il avait tout gelé, puis qu'il était... Il était scrap.
C'est ça. On a fait à peu près 15 cultures, puis tu sais, il y en a 2, 3, 4, comme tu nommes, là, qui sont à redéfinir ou qu'on enlève carrément de la planification de l'année prochaine. Mais ouais, je pense qu'on avait cette notion-là depuis l'école d'agriculture qui est de pas faire trop de nouveautés parce que chaque nouveauté apporte son lot de risques.
Mm-hmm.
Fait qu'on a fait des légumes qu'on était habitué de cultiver l'été ou, tu sais, en fin de saison, au printemps ou à l'automne. Fait que... ouais, ça nous a permis finalement de relativement maximiser nos surfaces et puis de bien utiliser nos surfaces. Après, il y a eu des défis liés à telle culture, à tel endroit dans la serre. Sur les côtés de serre, par exemple, bon, il fait plus froid, ça gèle plus. Fait que les cultures moins résistantes au froid, qui sont sur les planches de côté, ont plus de défis. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on jette la culture puis qu'on l'enlève de la planif, mais on va peut-être la placer ailleurs.
Exact. C'est ça. L'année prochaine, on vise ça. T'sais, les côtés de serre, on a quand même visé... à mettre des cultures qui sont super résistantes, là, complètement badass.
Ouais. Puis justement, sur ce sujet-là, je pense que la top, et on s'entend toutes, c'est la clétonie.
Ça
n'a
pas de sens.
On capote sur la clétonie. C'est une culture qui est extra résistante au froid dans notre contexte. On l'a mis dans un des endroits les plus froids d'une des serres qui a comme tendance, on dirait, il y a un coin qui gèle, même si on chauffe. Puis on a eu des problèmes avec des cultures dans le passé, mais la clétonie, elle, est restée parfaite. On a fait une coupe, deux coupes. On est en train de faire la troisième coupe.
Et pas de soif.
C'est, comme tu disais, on dirait une plante extraterrestre.
Oui. Non, en tout cas, je la comprends pas tout à fait. Encore, là, on l'apprivoise, mais on l'apprécie vraiment.
Oui, c'est clair.
Elle est super belle aussi. On la met dans notre mélange de Messelin, puis...
Ouais.
Ça l'améliore vraiment notre mélange, en fait, il est super beau. Là.
Ouais, c'est comme une belle pousse, mais qui est cultivée en sol, tu sais.
C'est ça. Puis la densité, en fait, c'est ça qui est impressionnant, là. C'est comme, c'est super dense, c'est super beau aussi, là, tu sais, ça pourrait être super dense, puis que ça donne pas une belle culture, finalement, mais c'est extra dense et extra de qualité, en fait. C'est ça qui est étonnant, ça c'est du jamais vu, là.
Ouais, puis on n'a pas eu même d'humidité ou de maladie, comme j'aurais pu croire, comme c'était un de nos principales craintes à l'automne, c'était de se dire, bon, l'excès d'humidité dans des serres qu'on n'ouvre jamais, tu sais, va peut-être amener de la maladie, surtout dans les cultures extra-denses comme la clétonie. Pas du tout. On n'a juste pas eu de maladie dans la clétonie, pas du tout.
Grâce à quoi? Tu veux-tu nous parler de ton coup de cœur?
Notre coup de cœur, c'est le... Ben, dans les installations qu'on a faites à l'automne pour planifier notre agriculture hivernale, il y a eu, entre autres, des volets ouvrants, des espèces de petites fenêtres à volets qui s'ouvrent et qui se ferment automatiquement en fonction de la température ou de l'humidité qu'il fait dans la serre. Puis je pense que ça a vraiment participé à évacuer l'excédent d'humidité le jour, quand il faisait soleil, que la température se réchauffait dans la serre, ben les volets s'ouvraient, puis finalement l'air chaud et humide sortait. Puis c'est drôle parce que de la maison, on voit les serres, puis on voit le devant des serres là où il y a les volets. Puis les journées quand même froides, mais ensoleillées, ben on voit comme une vapeur de cheminée, tu sais, qui sort des serres, c'est impressionnant, puis... Je pense que ça nous a vraiment permis de garder le taux d'humidité dans des seuils acceptables, entre 80 puis 95, mettons, mais pas être toujours coincé à 98 ou 100% d'humidité, là, à peu près. Fait que ça, je pense que c'était comme un détail, puis on savait pas exactement qu'est-ce que ça allait avoir comme impact, Mais clairement, ça nous aide à gérer ça. Puis depuis février, depuis qu'il y a des grosses journées ensoleillées, plus longues, puis que ça se réchauffe nettement dans les serres, ben, ça permet de contrôler la température aussi. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'a pas à ouvrir les côtés ouvrants pour diminuer de quelques degrés une serre qui a le goût de monter à 25-30. Mais tu sais qu'on veut pas créer un choc non plus de température dans la serre.
Les méthodes sont limitées. C'est un outil supplémentaire.
Ouais.
Sinon, on n'a pas beaucoup de moyens, en fait, de la faire sortir l'humidité. Puis...
C'est ça. Fait que avec la ventilation positive qui rentre de l'air frais, puis les volets ouvrants qui permettent de sortir un peu de l'air chaud, ben là, on a vraiment comme un renouvellement d'air.
C'est ça.
Puis un nettoyage de l'air humide aussi. Fait que c'est un scénario satisfaisant. Je trouve que c'est un bon coup pour le premier hiver qu'on a vécu.
Mm-hmm. Pour gérer l'humidité, qui est en fait probablement un des défis phytosanitaires principaux des agriculteurs hivernaux.
Je pense que oui.
Ouais.
Je pense
aussi. Ouais. La vie maraîchère est fière d'avoir comme partenaire principal Dubois Agri-Innovation. Vous pouvez trouver une gamme étendue de produits et de solutions pour répondre à vos besoins en production maraîchère. Que ce soit des solutions d'irrigation, des filets de protection, des outils, du paillis de plastique ou du paillis biodégradable, découvrez tout ça et bien plus chez Dubois. Visitez leur site web au www.duboisag.com, www.duboisag.com et obtenez la livraison gratuite sur des commandes de 200$ ou plus en ligne. Bon, maintenant qu'on a parlé de nos bons coups, on va aussi parler des défis qu'on a rencontrés puis des pistes de solutions, n'est-ce pas?
Ouais, ben en fait, moi j'ai envie de te poser la question directement puis de savoir comment tu as vécu la gestion climatique,
mm-hmm.
la gestion des bâches puis comme l'évolution de nos différentes étapes dans la gestion climatique.
En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est à peu près le seul aspect de l'agriculture hivernale qui, personnellement, m'a donné des émotions fortes, là. Mm. je dirais négatives quand même, là, dans le sens qu'il y a eu une journée en particulier où est-ce qu'on a réalisé que le système qu'on utilisait depuis le début de l'hiver ne fonctionnait pas, dans le fond. C'est le moment où il s'est mis à avoir des grands froids.
Ouais.
Dans le fond, ça s'est passé en plusieurs étapes, là. Disons que essentiellement novembre jusqu'à mi-décembre, on a fonctionné avec une bâche dans toutes les serres, puis qu'on y allait matin et soir. Donc, le matin, vers 9h, on allait l'ouvrir, puis l'après-midi, vers 3h, on allait le fermer. On était toujours deux, ça se passait quand même bien.
Mm-hmm.
C'était pas un gros défi, à part l'assiduité dont on avait à faire preuve. Après ça, est arrivé les grands froids, donc il s'est mis à faire comme moins 10, moins 15, puis c'était autre chose. À ce moment-là, on a mis deux bâches dans chacune des serres, puis on a comme réalisé, disons, la limite de notre système, donc la limite des fournaises qu'on avait, étant donné que nous, on chauffait en dessous des bâches. Bien, ça faisait en sorte que le climat qu'on contrôlait, en fait, était aussi en dessous des bâches. C'était comme une espèce de bulle autour de nos cultures. Et évidemment, nos fournaises étaient exclues de cette bulle-là. Donc, nos fournaises à condensation, donc qui condensent, pouvaient geler, en fait. Étaient soumises au froid, au grand froid. Puis à ce moment-là, on a pogné notre 2 minutes. Hein. On était comme « Oh, OK! » Ça ouais. marche pas. Nos fournaises gèlent.
C'est ça. Ça a vraiment gelé. Là. Puis quand ça gèle, ça peut compromettre tout le système. Là.
C'est ça. Je pense qu'on s'est mis à avoir peur, en fait, que nos fournaises, qui sont quand même, dans certains cas, sont quand même âgées, là, qui puissent pas être au rendez-vous au printemps quand c'est le temps de mettre des concombres et des tomates si on continuait à pousser notre test plus loin. Donc, on a décidé de fonctionner différemment, puis de les retirer dans un premier temps pour faire bénéficier à nos fournaises de leur propre chaleur, puis dans un deuxième temps pour éviter d'avoir à mettre deux bâches, ce qui était, tant qu'à moi, presque un enfer.
Mm-hmm. Ouais, non, je comprends. C'est je ça. Partage aussi, là.
Ouais, ouais on a... En fait, ça a duré une journée et demie, donc...
ouais.
On les a mis, enlevés et remis, en tout cas, quelque chose comme ça, puis j'étais là à toutes les fois, puis ouais. À toutes les fois, j'ai vraiment halluciné à quel point c'était difficile. Puis j'aime bien, comme, faire une métaphore, là, parce que une bâche versus deux bâches, ça n'est pas deux fois plus difficile, c'est comme 10 fois plus difficile, là. une seule bâche, c'est comme un petit drap de soie là, qu'on soulève et qu'on remet tout bonnement. Deux, c'est comme une espèce de couette avec des billes de plomb vraiment difficiles à manipuler. Là.
Ouais. Puis toute l'humidité est coincée là-dedans, des fois le gel sur les côtés. Des fois c'était un enfer. On peut dire que c'était pas bon pour le couple aussi. C'était mieux d'y aller un membre de chaque couple pour...
C'était pas bon pour l'association non plus. C'était comme d'un bout à l'autre de la salle, on se criait « Ben là, tire! Non, toi, tire! » Mais mon Dieu! Ouais, non, c'est ça. On veut pas ça.
Ouais, tu sais, il y aurait pu y avoir des solutions. Mettons, on aurait pu décider de couper les bâches en plus petits morceaux parce que là, on avait des bâches qui faisaient la serre en entier. Fait qu'on s'est comme donné un bon défi, mais... Ça n'aurait pas tout réglé de faire ça, fait qu'on est allé ailleurs. Là.
C'est ça. Donc, de ne plus utiliser de bâche momentanément, aussi pour pouvoir prendre congé, puis arrêter d'aller à tous les jours dans nos serres pendant le temps des fêtes, qui est comme notre seul congé réel à ce jour-là. Ouais. Ça offrait beaucoup plus de simplicité pour nous. Puis, c'est vers là qu'on est allé. Je pense que cette quête de simplicité-là nous correspond bien. C'est sûr que c'est pas une simplicité qu'on veut payer par le biais nécessairement du propane. Là. C'est ouais, pour c'est ça qu'on on garde un chauffage minimal, tu sais.
Ouais.
C'est ça.
Juste au-dessus de zéro pour pas que ça gèle dans les serres où on veut pas que ça gèle.
C'est ça.
La serre 5, elle, est restée sans chauffage parce qu'elle n'en a pas de fournaise. Puis de toute façon, ben c'est intéressant d'avoir une serre non chauffée pour maximiser l'automne, puis disons le début du printemps ou la fin de l'hiver. Fait que dans la serre 5, on a laissé la bâche tout l'hiver. On n'est pas allé l'ouvrir matin et soir. On l'a juste retiré dans les dernières semaines, là, au mois de mars, quand les nuits se sont montrées un petit peu plus clémentes. Fait que ça, c'était gérable. Ça, c'est une gestion de bâche qui se fait selon nos modalités à nous, là, selon nos intérêts.
Mm-hmm. Disons qu'on est tombé vraiment dans un état d'esprit où il y a deux types de gestion. Il y a les serres minimalement chauffées dans lesquelles on récolte tout l'hiver, où est-ce qu'il n'y a pas de bâche. Puis, il y a la serre non chauffée, où est-ce qu'il y a une bâche, puis que ça gèle. C'est tout. On n'intervient pas. Puis d'ailleurs, je suis allée faire un tour hier dans serre 5, puis je capotais. C'est tellement beau, là.
Ben oui.
Nos cultures sont tellement belles. Ils ont toutes gelé, tu sais.
Ouais.
En tout cas, c'est étonnant.
Vraiment, ça a vraiment poussé, malgré la bâche, malgré les gros gels. Des épinards semés au mois de novembre, là, sont comme... Sont pleines de vraies feuilles, puis vont être récoltées dans les prochaines semaines. C'est impressionnant de voir ce qui s'est passé malgré la faible luminosité puis le froid.
Mm-hmm. Si on continue dans les défis, c'est sûr qu'il y a certaines cultures qui ne sont pas arrivées à temps, dans les temps qu'on voulait.
Mm-hmm.
Puis on a ajusté notre calendrier en conséquence. Là, toi puis moi, on a eu l'occasion de refaire la planification pour l'hiver prochain, genre pas plus loin qu'avant hier.
Mm.
Puis on a tout ajusté ça. Puis tant qu'à moi, on est sur des bonnes bases là, pour l'année prochaine.
C'est ça, vraiment. On s'est dit que tous les automnes ne seraient pas nécessairement aussi cléments que celui qu'on a vécu. Puis il y a certaines dates de semis puis de transplants qu'on a généralement un peu devancé pour être vraiment certain d'avoir nos légumes prêts au mois de novembre ou prêts au retour du temps des fêtes. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a eu des ajustements. Pour les épinards, mettons, c'était quand même assez majeur comme ajustement parce que finalement, il y avait eu trop de semis tardifs. Mais à quelque part, une semaine de différence à l'automne, au semis, ben ça peut nous devancer de 3 semaines, 2 semaines à la récolte. Fait qu'on a fait ces petits ajustements-là, puis on est vraiment confiant que ça va aller mieux. Mais ça reste le défi principal, là, je trouve, l'ajustement du calendrier, puis savoir, tu sais, on veut rentrer des nouvelles cultures, mettons, dans notre planification hivernale, ben combien de temps ça prend la coriandre, quand c'est un jour à maturité X, puis qu'on n'est pas habitué de le faire, on n'a pas une règle à appliquer à toutes les cultures, parce que certaines cultures vont pousser plus rapidement que d'autres dans le contexte de faible luminosité. Fait que à chaque année, on va faire certains tests, puis on va avoir certaines confirmations, puis on va s'ajuster l'année d'après.
Mais on avait quand même réussi à viser juste. J'ai comme l'impression que l'épinard, en fait, c'est comme presque l'exception. Là.
Ouais.
Pour le calendrier que, on était comme pas vraiment dedans, là.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est sûr que le fait d'avoir retiré les bâches aussi, ça nous a aidé à avoir un petit peu plus de luminosité, donc à avoir plus de croissance, puis tu sais, je pense que ça, c'est à mettre dans le calcul aussi de la croissance puis du calendrier, là.
Mmh. Ouais, c'est clair. Bon, on a dit tantôt qu'au niveau de la mise en marché, ça a super bien été. Dans le fond, les gens avaient soif de verdure hivernale. Par contre, on n'a pas pu toutes les semaines répondre à cette demande-là.
Mm-hmm. Ça a été dur quand même. Tu sais, c'était un autre point d'interrogation majeur, c'est de savoir quels clients vont nous acheter quoi, en quelle quantité, puis nous, qu'est-ce qu'on va être capable de fournir, quand, comment. Tu sais, fait qu'on a été capable de fournir quand même beaucoup de légumes pendant longtemps, mais il y a eu des moments de pause forcés parce qu'on avait tout simplement vendu plus qu'on pensait, ça avait poussé moins vite qu'on le pensait, fait qu'on se retrouvait à pas avoir assez de légumes pour vraiment faire une offre. Donc, c'est comme si on avait eu un peu deux périodes prolongées, là, puis il y a eu une pause entre les deux. Mm-hmm. Donc, de début novembre jusqu'à Noël, tu sais, ça a bien été, c'était relativement en continu. Puis ensuite, on est parti pour le temps des fêtes. Puis quand on est revenu, ben, en janvier, on a comme rembarqué sur des ventes, mais rapidement, finalement, on s'est rendu compte, après deux semaines, on n'avait plus de légumes à offrir vraiment. Fait que là, on a repris une autre pause de trois semaines. Mais le mois de février, là, se pointait le nez. On était rendu la troisième semaine de février, dans le fond, quand on est revenu. Puis on a pu le faire parce qu'il y avait eu de la croissance. Puis justement, février, c'est encore plus évident que jamais comment la luminosité augmente. Puis ça fait une différence sur les cultures. Fait qu'on s'est retrouvé à avoir quand même une belle offre fin février, alors que trois semaines avant, il n'y avait pas tant de choses intéressantes à offrir.
Mm-hmm. Fait que ça s'est comme passé en deux vagues. Puis moi, j'anticipe en fait que l'année prochaine, ça va être un peu la même chose, mais comme volontairement, tu sais, qu'on va avoir comme une période de vente avant Noël, puis qu'on va laisser une pause à nous-mêmes ainsi qu'aux légumes, qui est comme nécessaire, puis on va revenir au moment où la luminosité remonte un petit peu, plus en février, puis là, on va recommencer à vendre. T'sais, j'ai comme l'impression que ça va de pair avec la saisonnalité hivernale comme naturelle là, de la luminosité, puis...
C'est sûr.
C'est ça, c'est cohérent, dans le fond.
Vraiment. T'sais, on pourrait faire des choix différents, puis on pourrait décider d'avoir... un ou deux ou trois légumes en serre, puis donc d'espacer les implantations, puis d'être vraiment en mesure de fournir pendant 15, 16, 17 semaines d'hiver ce légume-là toutes les semaines. Mais comme on choisit d'être diversifié, ben ça vient avec des contraintes aussi, tu sais, puis on va pas augmenter notre surface de serre, on va garder notre diversité, donc il y a un petit peu plus d'aléas comme ça, puis c'est plate d'avoir des trous de vente, pour nos clients, puis pour nous. Mais en même temps, je pense que ça fait... On accepte tout à fait le fait que ça fait partie des défis de l'agriculture hivernale, puis on n'a pas pris d'engagement à produire 52 semaines par année. Là. C'est quand même... c'est des gros défis.
Mm-hmm. Puis, tu sais, dans tous les cas, de se priver de verdure fraîche un mois et demi par année, dans le fond, c'est vraiment pas si pire comparé à s'en priver pendant 6 mois. Tu
sais. Ouais, c'est ça. Exact.
Fait que c'est le mieux qu'on constate qu'on peut faire dans les conditions qu'on a puis dans les choix qu'on fait.
Donc. C'est ça. Puis nous autres, ça prolonge un peu notre période de pause slash vacances du temps des fêtes. Où est-ce qu'on peut, si on commence à travailler, se concentrer sur d'autres choses, d'autres projets ou la planification, etc. Puis quand on recommence à récolter, ben on recommence pour de bon. T'sais. Fait que ça, ça, c'est intéressant aussi.
Ouais, ouais, ça fait du bien d'avoir un vrai mois et demi sans routine de production.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Cool. Ben, on pourrait peut-être terminer avec un des derniers principaux défis qu'on considère avoir eu cet hiver, puis ça concerne l'irrigation.
Oui, c'était des gros questionnements encore, savoir qu'est-ce que les légumes vont prendre en eau, donc comment on va irriguer, à quelle fréquence. Finalement, on n'a pas assez irrigué. Hein. C'est tout simplement, on s'est rendu compte que un peu à rebours, là, notre Salanova, notre mesclun, mettons, était soudainement très léger, il était comme sec.
Ouais.
Il manquait d'eau parce qu'on avait basé nos planifications sur la règle du pouce qu'on avait entendue, irriguer à peu près une fois par mois. Mais finalement, ben, des cultures comme le mesclun, mais surtout comme le céleri, puis même le persil, dans des serres chauffées, il y a une croissance qui continue. T'sais. Il y a une croissance pendant le mois de janvier, pendant le mois de février surtout. Puis cette croissance-là est associée à un besoin en eau, puis définitivement plus grand que juste une irrigation, même longue, une fois par mois. Fait que
C'est ça, puis ça dépend des cultures. Dans le sens, bon, un épinard, par exemple, peut-être qu'une fois par mois, ça convient très bien.
Ouais.
Mais dans le cas des céleris qui, l'été, exigent 2-3 fois plus d'eau, tu sais, ben l'hiver, c'est la même chose.
C'est ça.
Faut pas perdre ça de vue, tu sais.
C'est ça. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est retrouvé avec des céleris qui étaient comme creux. au mois de février, puis quand on réalise ça, finalement, il est trop tard, tu sais, le problème, il...
On peut plus le corriger.
C'est ça, il a été fait, la cause est à date d'un mois, tu sais. Fait que...
Mais c'est dommage parce qu'il était tellement beau.
Ouais, puis il était bon.
On en avait, là.
Ouais, il y en avait beaucoup, il était beau, il était bon, mais on en avait trop, peut-être, pour notre mise en marché à ce moment-là, fait que... Malheureusement, tu sais ça, on en a perdu beaucoup, mais il y en a quand même une partie qui est restée belle, puis on a constaté qu'en irriguant plus, bon, ben, il reprenait du mieux. Mais c'est sûr que l'année prochaine, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va irriguer plus souvent, au goutte à goutte, peut-être une fois par semaine, dans ces eaux-là. Puis l'irrigation par aspersion, même si ça augmente l'humidité, c'est à considérer sérieusement parce que ça facilite... la répartition de l'eau sur la surface. C'est quand il y a des petites cultures qui n'ont pas des racines très profondes encore, irriguées par aspersion, c'est quand même vraiment aidant. Fait que on voit que pour l'hiver, là, les deux types d'irrigation sont pertinents.
Oh oui, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas avoir trop peur d'augmenter l'humidité par journée très ensoleillée, par exemple. Il faut juste bien choisir sa journée si jamais on veut faire un petit peu d'aspersion.
Oui, ouais, exact. C'est tôt.
Cool. Merci pour le sommaire de cet hiver. Je pense qu'on a couvert pas mal les grandes lignes dont on parle ensemble régulièrement.
C'est ça, ouais. C'est un peu notre discussion quotidienne qu'on enregistre. C'est là, mais, ouais, c'était super le fun. Je pense qu'on a vécu une belle saison, les quatre, puis c'est le fun d'en parler puis de partager ça avec les auditeurs puis avec d'autres producteurs aussi.
Ouais. Puis on va continuer à partager ça, je pense.
Ouais, certainement.
Ouais. Nice! Cool! Ben, merci d'avoir été à l'écoute.